l'euthanasie en Belgique à 20 ans. Les Pays-Bas ont voté une loi similaire en 2001. La Suisse et l'Oregon, aux États-Unis, autorisent le suicide médicalement assisté. Aujourd'hui, la Belgique demeure un pays pionnier dans l'encadrement juridique de la fin de vie. Depuis, d'autres pays ont embrayé, en Europe et ailleurs. Et chez nous, depuis 2002, le texte a permis à quelque 27 000 personnes d'abréger leur souffrance. Pour Laurent, la mort est proche. À 49 ans, cet ancien grand sportif pratiquant le trail, ce père de 4 enfants, a décidé que la vie devait s'arrêter.
Les premiers symptômes sont apparus en 2010, lors d'un trail que je faisais. Et il a fallu 4 ans au médecin pour mettre le doigt sur ce que j'avais, parce qu'il pensait que le problème que j'avais, c'était un problème lié à un excès de sport. Par exemple, à partir du trail, je n'ai plus jamais su courir, par exemple. Parce que j'avais ce que j'appelle le syndrome de la jambe pendante, c'est-à-dire que j'ai le pied droit qui traînait sur le sol quand je n'arrivais plus à lever la jambe. Donc, au moins tout trouvé, on a pensé que c'était une hernie discale. On a pensé que j'avais les pieds plats. On a un nerf coincé dans la colonne vertébrale qui expliquait le problème de la jambe droite. Il m'a fait passer une IRM, et il y a l'IRM donc en 2014. Ils se sont rendus compte que ça n'avait rien à voir avec ça et que c'était une sclérose en plaques. J'ai dit, ok, mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Action, réaction, c'est quoi le traitement? Et il m'a dit, il n'y a pas de traitement.
Laurent est atteint d'une sclérose en plaques primaire progressive. Il s'agit d'une pathologie neurodégénérative. Ces neurones se détruisent au fur et à mesure du temps qui passe et il n'existe aucune possibilité pour lui de récupérer ce qui est détruit. Il n'existe aucun traitement curatif non plus. Entre l'apparition des premiers symptômes en 2010 et aujourd'hui, Laurent a vécu dans la crainte de la prochaine aggravation dégénérative. Chaque crise l'abîme définitivement de façon irréversible. Aujourd'hui, la maladie a vaincu ses jambes. Il ne peut plus lire, sa respiration est saccadée. Seule sa main gauche fonctionne encore.
J'ai une hospitalisation assez lourde qui a duré près de 6 mois. Et après 6 mois, on m'a demandé gentiment de quitter l'hôpital. Et donc j'ai demandé mon rapport, mon bilan de sortie, pour le remettre à mon kiné qui allait continuer donc à suivre mon traitement. J'ai pris connaissance du rapport de sortie. Et en conclusion, le médecin en chef indiquait, après 6 mois de revalidation intensive, nous ne voyons aucune amélioration.
Laurent remplit les conditions définies par la loi. Il a exprimé son choix de manière volontaire, réfléchie et répétée, sans pression extérieure. Il se trouve aussi, selon les termes de la loi, dans une situation médicale sans issue et fait état d'une souffrance physique ou psychique constante et insupportable qui ne peut être apaisée et qui résulte d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable. En 2014, la loi a été étendue aux mineurs, sans âge minimum et avec l'accord des parents. Depuis 2020, seul le médecin est libre de refuser une euthanasie en usant de sa clause de liberté de conscience. Mais aucune institution, aucun hôpital en revanche, ne peut plus interdire l'euthanasie en recourant à une clause de conscience collective.
En 2015-2016, j'ai commencé à me renseigner sur l'euthanasie. Je me suis dit, ok, mais quel est le stade que je ne veux pas atteindre et qui justifierait, si je l'atteins, de recourir à l'euthanasie? Et j'essaie de conceptualiser ce stade dans ma tête. Je l'ai appelé le stade de dépendance dégradante. Je dis, ça, je ne veux pas atteindre. Le stade de dépendance dégradante, ce que je suis en train de vivre depuis novembre 2021, c'est le fait que ça fait maintenant bientôt 6 mois que je ne sors plus. Le problème, c'est que j'ai besoin d'aide pour tout, pour me donner à manger, pour ma toilette, pour ma toilette intime, pour aller au WC, ce genre de choses. Parce que jusque-là, je me suis toujours démerdé pour... avant cette aggravation de novembre 2021, je continue à faire ma toilette intime seule. J'avais fait aménager les WC pour que je puisse y aller tout seul. Je ne voulais absolument pas arriver à ce stade-là. Et là, j'y suis arrivé donc en fin novembre 2021. Et là, j'ai lancé la procédure. Comme je n'ai pas une douleur, une maladie qui est insupportable sur le plan physique, mais qui est sur le plan psychique. Je devais avoir l'intervention d'un psychiatre qui devait déterminer si je n'étais pas simplement en train de souffrir une dépression lourde. Et le rapport du psychiatre, c'était très très impressionnant parce que j'avais pour la première fois un regard extérieur sur mon état. La vie ne vaut pas d'être vécue jusqu'au bout de l'enfer. Je trouve que ça résume très 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 bien donc la situation. Parce que mon malheur, c'est j'ai toute ma tête. Sur le plan cognitif, ça se passe bien, mais le fait d'avoir toute sa tête me met dans une situation très infernale parce que je me rappelle de ce que j'étais capable de faire. Je comprends ce qui m'arrive. C'est une maladie qui va encore aller en dégénérant. Et j'ai cette conscience là. Cette maladie, c'est une maladie qui ne vous offre aucune perspective.
Les principales affections à l'origine des demandes d'euthanasie sont soit des cancers, soit une combinaison de plusieurs affections sans issue et qui entraînent de plus en plus de handicaps sérieux. La loi permet aussi d'ouvrir l'euthanasie aux patients psychiatriques. Mais pour ces derniers, interpréter et confirmer les termes « incurable » et « souffrance insupportable » est très complexe. Ils embarrassent les médecins. Le processus est long, fait de tentatives de suicide et de périodes de rémission. Du coup, les praticiens sont plus réticents, voire opposés à ce type de demande. Ainsi, les patients psychiatriques ne représentent que 1 à 2% des requêtes enregistrées. Caroline est généraliste. Elle a 30 ans et elle pratique ce geste difficile. Elle ne souhaite livrer ni son nom, ni son identité. Elle craint, comme cela lui est déjà arrivé, d'être harcelée, accablée de demandes, en partie injustifiées.
Je pense qu'on peut tout à fait avoir une euthanasie où la maladie psychiatrique est la plainte principale. Parce que, notamment les psychiatres, mais aussi nous les médecins généralistes, on a quand même l'expérience de savoir, quand on connaît très bien nos patients, est-ce que c'est la maladie qui parle ou est-ce que c'est la personne qui est en souffrance suite à sa maladie. Et pour moi, ça a du sens, parce que la plupart des gens avec des problèmes psychiatriques, ils ont des périodes où ils peuvent s'exprimer tout à fait bien et demander... Il y en a clairement où j'ai pris plus de temps, notamment par exemple une patiente où j'avais du mal à cerner si elle avait des problèmes cognitifs ou pas. Elle était très âgée et finalement je suis allée chez elle et j'ai fait un test de démence et j'ai réalisé qu'elle n'était pas du tout démente. Elle avait juste une personnalité un peu particulière. Et alors j'essaye d'avoir des outils comme ça pour... Je pense que si on a un doute, il faut se demander très clairement pourquoi est-ce que j'ai un doute. Est-ce que c'est parce que je pense que le patient n'est pas tout à fait d'accord? Est-ce que je pense que ça n'entre pas dans le cadre de la loi? Est-ce que c'est parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore essayé? Voilà, je pense qu'il faut essayer de s'interroger un peu sur son doute. Et puis, c'est... j'ai aussi plusieurs fois été avec des collègues pour l'euthanasie de patients à eux, où moi j'avais fait un avis, j'ai accompagné pour l'euthanasie. Et là, ça veut dire que c'est des patients que j'ai rencontrés une ou deux fois. Et c'est absolument pas plus facile quand c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas aussi bien. Ça a plus de sens quand c'est notre patient qu'on connaît depuis des années. On les a connus bien, on les a connus en souffrance, on a fait le chemin avec eux. Alors moi j'ai compris intimement pourquoi on est là, eux ils ont compris. Et oui, alors c'est parfois plus simple quand on est attaché au patient, parce qu'on est encore plus convaincu que c'est ce qui est là.
Chaque demande exige du temps, un suivi. Caroline est toujours accompagnée d'un autre médecin. Elle préfère aussi que tout cela intervienne le soir pour être entièrement au chevet du malade. Impossible pour elle, de toute manière, de reprendre ses consultations après. La généraliste s'est fixée une limite. Elle évoque une euthanasie tous les deux ou tous les trois mois. Pour les médecins, comme elle, qui la pratique, ce n'est jamais un geste facile. Ceux-là considèrent que l'euthanasie est la forme ultime des soins palliatifs, estimant que leur devoir ne se limite pas à soigner les malades, mais à les accompagner jusqu'au bout du chemin.
Il y a des choses pratiques et administratives qu'on doit préparer, et je sais qu'il y a des médecins qui n'aiment pas trop devoir faire les rapports et tout ça après, mais je pense que c'est bien parce que ça fait aussi un petit peu partie de la façon dont nous on se prépare et qu'on sait que tout est en ordre, parce que je peux remplir toutes les cases dans mon rapport correctement, ça veut dire que j'ai rien oublié. Puis il faut commander les médicaments, ça c'est aussi parfois difficile parce qu'il n'y a souvent pas les médicaments, les produits dont on a besoin. Alors ça c'est toujours un peu une pression. On a dit au patient oui, on va le faire la semaine prochaine et puis on n'a peut-être pas les produits. Ça prend un peu de choses. Je me sens toujours un peu inquiète, mal à l'aise les jours avant. Je pense que beaucoup de choses, on s'imagine si ça ne va pas, ou si j'ai oublié un produit, ou si je me retrouve sans mon bic, ou si à la dernière seconde, le patient, je change d'avis, ou comment je vais gérer ça. On imagine plein de choses. Finalement, au moment, c'est jamais les choses qu'on écoute qui sont là. Et les euthanasies, quand c'est la bonne décision, on arrive et il y a une bonne ambiance ou une ambiance allégée, et on sent qu'on vient faire quelque chose de bien. Et ça veut dire que je me sens souvent un peu émotionnelle, mais quand même un peu soulagée pour le patient après. Et ça veut dire que les jours après, c'est bien. Et puis j'en parle beaucoup avec mes collègues. Et c'est juste bien de pouvoir partager. C'est important. Pour beaucoup de choses en médecine, mais notamment pour ça.
L'euthanasie reste un sujet sensible. En 2020, trois médecins étaient jugés devant la cour d'assises de Gand pour l'euthanasie, en 2010, de Tine Neys. À 38 ans, elle était victime de souffrances psychiques insupportables. Même si les médecins ont été acquittés, le procès a encore des répercussions. Elles se lisent dans les chiffres, ceux-ci stagnent en Flandre. Désormais, de plus en plus de médecins exigent que les proches soient informés, même si la loi ne l'impose pas. Car n'importe qui peut porter plainte auprès du procureur du roi, et la législation n'a prévu aucune loi pour sanctionner un médecin qui ne respectera pas le fond ou la forme de toutes les conditions de la loi. Une euthanasie pour laquelle il y aurait des doutes sur la libre volonté du patient ou une euthanasie déclarée 5 jours après au lieu de 4 est mise sur un même pied. Résultat, le médecin porte seul la responsabilité et s'expose à être poursuivi devant la cour d'assises. Il y a aussi les patients atteints de dégénérescence sénile, atteints de démence ou de la maladie d'Alzheimer. La loi concerne le patient conscient et capable clairement d'exprimer sa demande. Pour lui, et pour tout un chacun, il existe la demande anticipée d'euthanasie, désormais illimitée dans le temps. Mais celle-ci ne sera prise en compte que si le patient devait être dans le coma ou dans un état végétatif, la démence n'étant pas interprétée par les médecins comme un état d'inconscience. Des patients qui ne veulent pas voir leur état complètement se détériorer choisissent donc de sacrifier un bout de leur vie avant que la démence les frappe. Une question difficile pour l'instant discutée.
C'est une dernière liberté, certainement. Et là, je suis... Je ne sais pas qui a apporté cette loi au Parlement. Donc, le fait d'avoir eu cette intelligence-là, de laisser donc, la liberté aussi aux personnes qui sont en situation de souffrance, d'organiser donc, leur départ en cas de maladie insupportable sur le plan psychopsychique. Le fait d'avoir laissé cette liberté-là, je trouve que c'est un beau cadeau qu'on fait aux malades.
Laurent peut profiter de ce temps, de cette parenthèse d'avant l'euthanasie, pour préparer son entourage à son départ et permettre à ses proches de participer à la démarche. Il a tout organisé, tout réglé pour le jour de son envol le 21 septembre prochain. Parce que la vie ne vaut pas d'être vécue jusqu'au bout de l'enfer.